Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit ? Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. Économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Matière-Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint et vous écoutez Matière-Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute. La période des fêtes approche. Et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan, c'est le site Twill, T-W-I-L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIRE, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100€, Twill vous offre une bouteille. Et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twill.fr, T-W-I-L.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode numéro 31 avec Grégoire Dugarny. Salut Grégoire.
Salut Alexandre.
Merci d'être monté à Paris aujourd'hui.
Merci à toi de ton invitation.
Donc, je suis assez content de faire cet épisode parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode sur l'immobilier, alors que je pense que c'est un sujet dont on parle tous les jours depuis, j'allais dire quelques semaines, mais même quelques mois. On sent qu'il y a beaucoup de sujets sur le marché d'immobilier français qui a quand même bien ralenti, sur la hausse des taux, sur les prix... Les prix des biens immobiliers, du coup je voulais faire un épisode un peu sur est-ce que c'est quand même toujours le bon moment pour investir et si oui, un peu comment on fait aujourd'hui avec notamment des taux qui sont assez élevés. Est-ce que ça vaut quand même le coup de le faire? Est-ce qu'il y a peut-être des astuces ou des choses à faire peut-être un peu différentes pour continuer à investir et continuer à se construire un patrimoine? Voilà un peu les questions que je voulais te poser si ça te va. Avant de commencer, peut-être que tu peux un peu te présenter et présenter ton parcours pour savoir jusqu'où. Comment t'es arrivé? Alors, je sais que t'as un parcours assez atypique, mais comment t'en es arrivé à travailler dans l'immobilier?
Oui, bien sûr. Écoute, nous, WeCare, donc, c'est une société qui a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. On s'est lancé en début 2020. Moi, j'ai un parcours, donc on est 3 associés. Thomas Blin, Roc de Salins, c'est moi. Donc, on s'est lancé en 2020. On avait des parcours très différents. Moi, je bossais en politique à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances. Donc, voilà, des choses assez différentes. Un peu loin de l'immobilier, bien qu'il y avait quand même la notion de fiscalité, d'Airbnb, etc. Donc, mais en tout cas, quand même loin de l'investissement locatif. Et en fait, au tout départ, c'était avec Thomas. On s'est retrouvé en 2019. On a un peu évoqué le sujet. Thomas, lui, bossait dans une grosse boîte, de logiciels. Donc voilà, donc on s'est retrouvé, on a discuté. En fait, à l'époque, en 2019, fin 2019, l'investissement locatif clé en main. Donc après, je vais présenter WeCare, mais c'était ça se développait. Il y avait quelques acteurs un peu anciens, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc voilà, donc on s'est dit, nous, on va lancer WeCare. Plutôt au début un tropisme ouest, donc on était début juste Nantes et Rennes. En fait, on est parti de Paris parce qu'on était tous les deux à Paris, donc on s'est installé dans nos régions respectives, moi à Nantes, Thomas à Rennes. Très vite, Roc, donc le troisième associé, nous a rejoint, et donc lui était à Tours. Donc voilà, donc on avait plutôt ce tropisme ouest. Et puis là aujourd'hui, on est dans 19 villes, on est dans toute la France, on s'est quand même pas mal développé. On voulait justement sortir de ce côté trop grand ouest pour aussi offrir d'autres choix à nos investisseurs. Donc voilà, donc c'est un peu la genèse de WeCare, et on se construit tranquillement, étape par étape, voilà.
Parce que du coup, c'est, si je comprends bien, c'est un peu opportuniste aussi, parce que 2018, 2019, 2020, c'est un peu le moment où les conditions étaient quand même idéales. Hein, quand on regarde un peu dans le rétro, c'est on se dit cette époque-là a existé et c'était pas si loin que ça. Donc c'était aussi le bon moment pour se lancer dans l'immobilier à ce moment-là.
Ouais, complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en rend compte encore plus qu'il y a 4 ans. Mais oui, clairement, là, les taux étaient hyper bas. Il y avait les villes, toutes les villes, elles prenaient 30%, peut-être pas 30%, j'exagère un peu, mais voilà, 15% certaines villes, voire plus en certains quartiers. Donc oui, là, il y avait un fort dynamisme dans l'IMO, dans l'investissement locatif. Et aujourd'hui, encore une fois, c'était à l'époque peu développé. Entre-temps, après, on a eu des acteurs importants qui sont arrivés, qui ont évangélisé, etc. Donc c'était aussi intéressant. Ça. On a vu aussi l'évolution du marché en 4 ans.
Et du coup, le départ pour vos premiers clients, c'était quoi le sujet principal que vous vouliez résoudre? Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui? Est-ce qu'à l'époque, c'était vraiment le temps? Et aujourd'hui, peut-être que c'est un petit peu différent?
Non, mais tu as raison. En fait, oui, au départ, c'était nous, en tant qu'investisseurs, comment on voyait les choses. C'est finalement, on a quand même, Alors pour ceux qui sont à Paris, mais même dans les villes, on n'a pas forcément le temps, on a chacun son métier, on n'a pas forcément la connaissance qu'est-ce qu'est un bon quartier, tu vois, par exemple à Nantes ou à Rennes, quel est le bon quartier où investir, quel est le bon prix, etc. Donc oui, il y avait ce côté manque de temps, de connaissances. Aujourd'hui, avec des taux qui montent, c'est encore plus finalement ce besoin de conseils et d'être accompagné, peut-être même plus fort qu'il y a 4 ans. Parce que qu'est-ce qu'une bonne négo, comment optimiser son invest, etc. Donc on est aussi là, nous on a un vrai rôle de conseil sur tout le long du projet.
Et la typologie des investisseurs, elle a changé? Ou est-ce que c'est toujours des Nantais qui investissent principalement à Nantes et des Rennais à Rennes?
Alors ça dépend. On peut avoir beaucoup de Parisiens qui veulent une ville parce qu'ils ont des attaches dans cette ville, ou alors on a régulièrement le cas, ils ont un budget donné, ils veulent plutôt investir dans un immeuble, plutôt dans un T2, avec une idée d'un rendement. Après ça, le rendement, c'est pas toujours, on n'est pas faiseur de rendement, mais en tout cas, il peut y avoir des critères. Donc la ville peut être un critère, mais pas toujours. Donc oui, c'est vrai que moi, par exemple, à Nantes, les Nantais, ils vont investir à Nantes. Mmh. On a beaucoup, on a des Français de l'étranger, on a des Parisiens qui investissent. Ça peut être à Brest, ça peut être à Lorient, ça dépend vraiment. Il n'y a pas forcément de... Oui, bien sûr, il y a un historique de ville. Quand on connaît la ville, c'est plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas.
Ah, d'accord. Oui, ça peut être rassurant pour certains d'investir proche de chez soi parce qu'ils connaissent ou parce qu'ils peuvent se rendre sur place, si besoin.
C'est
ça. Mais pour d'autres, j'imagine, c'est l'investissement ou le rendement. Ou, enfin, c'est le,
oui, exactement. C'est le projet. C'est le projet.
Ouais. Voilà. OK. Et donc, vous accompagnez du coup toute la chaîne? Chaque maillon de la chaîne, sur du sourcing jusqu'à la gestion aussi.
Oui, tout à fait. Oui, donc c'est vraiment c'est l'investissement clé en main, c'est-à-dire qu'on accompagne sur l'amont, le conseil, il y a un premier call qui permet de un peu découvrir, déjà qu'on se présente, qu'on connaisse mieux leur projet, sujet financement quand même, qui est un sujet important aujourd'hui. Et puis après, bien entendu, c'est l'accompagnement sur toute la durée de l'investissement, donc c'est la négociation du bien, enfin trouver le bon bien, le négocier. L'accompagnement administratif, avec la relation avec les notaires, les agents, etc. Donc on est vraiment là pour faire gagner du temps et aussi éviter parfois un peu les désagréments, ce genre de choses. Et ensuite, les travaux, l'ameublement, quand c'est du meublé, et la première mise en location. Voilà. On offre aussi une option de gestion qu'on a lancée maintenant il y a plus de 2 ans et demi. Il manquait un peu ce maillon à la chaîne pour offrir en effet la gestion, la vie du bien sur la durée, ce qu'on nous demandait, ce qui est vrai. C'est vrai que quand on a un investisseur qui est parisien, ou même d'ailleurs des mêmes quand ils sont dans la ville, gérer le locataire, gérer les turnovers des locataires, c'est pas forcément, c'est très chronophage. Donc on peut aussi proposer la gestion.
Ouais. Et si on essaye un peu de décortiquer un peu le process d'acquisition, tu disais le premier, c'est peut-être la partie conseil. Est-ce que ça, c'est de vérifier que le client, il est entre guillemets finançable, ou est-ce qu'il a conscience des conditions d'emprunt, et est-ce qu'il il va pouvoir réussir à emprunter, parce que pour pas entre guillemets perdre de temps, que tout le monde perde de temps. Ça, j'imagine que ça prend de plus en plus de temps aussi en ce moment, parce que les gens peut-être sont un peu inquiets des conditions, se disent est-ce que je vais réussir à emprunter, et est-ce que surtout l'opération va tourner.
Oui, complètement. C'est-à-dire que la partie financement pour nous, elle est très importante. Dès le début, de toute façon, on leur dit mieux vaut on se recontacte dans 2 mois ou, voilà, ou dans quelques semaines, mais c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde d'avoir un go, enfin un go, en tout cas d'avoir une vision de financement un peu claire, pour pas en effet qu'on arrive et qu'on finalement le deal se fasse pas parce que la banque a retoqué. Donc en fait, c'est un gain de temps pour tout le monde, pour nous, pour pas perdre du temps, faire des recherches pour rien, et pour les investisseurs, pour pas qu'ils se projettent dans un projet où finalement, au final, ça peut pas se faire. En tout cas, pas tout de suite. Donc oui, c'est important ça.
Et ça, c'est vous qui faites l'analyse ou vous bossez avec des courtiers ou des banquiers qui...
Alors, non, voilà, en effet, chacun son métier. Donc nous, on n'a pas internalisé ça. On a un partenaire aujourd'hui qui s'appelle Artemis Courtage, qui est un partenaire intéressant pour nous parce qu'ils sont dans toutes les villes où nous sommes. Donc on a on n'impose pas à nos investisseurs, c'est-à-dire qu'on leur impose pas impérativement le courtier. Mais bon, en général, ils nous font confiance. On connaît bien Artemis, on bosse avec eux depuis longtemps. Et voilà, ça nous permet, nous aussi, d'avoir une relation de confiance et d'avancer tranquillement sur le financement.
Ok. Et ça veut dire que là, aujourd'hui, les conditions, je pense que tout le monde l'a lu au moins quelque part, parce que ça fait quand même les gros titres depuis plus de 6 mois. Hein, depuis un an maintenant, on a commencé à avoir cette hausse. Est-ce que du coup, vous voyez plus de projets qui ne se lancent pas parce que finalement, ça n'a pas marché? Ou est-ce que justement Artemis arrive toujours à trouver une solution pour financer?
Oui, alors, ouais, non, en effet, c'est vrai qu'il y a un an, on a vu on a vraiment un retournement, en tout cas nous on trouve chez WeCare, en 2023, là, février 2023, l'année dernière, on avait beaucoup d'investisseurs qui ont stoppé leur projet en disant attendez, là, les taux montent, on n'a pas de visibilité, etc. On voit que les prix, c'est pas encore, ça s'ajuste, ça met du temps à s'ajuster, donc on attend. Là, on voit quand même pas un retournement, mais un début de retournement. On a beaucoup d'investisseurs qui reviennent, qui nous disent bon, les signaux s'améliorent. Donc Artemis, on a peu de projets qui sont tombés pour du financement. Justement aussi grâce à Artemis qui nous sécurise, tout le monde en fait, l'investisseur comme nous. Donc voilà. Après sur le décalage des projets, on en a eu en 2023. On a plutôt des investisseurs maintenant qui reviennent, qui se disent le financement, on l'a retravaillé. On voit que les taux, c'est plutôt une tendance à la stabilisation, voire à la baisse. Donc c'est le moment d'y aller. Quoi. Voilà.
Parce que là, c'était quoi les taux pour avoir les ordres de grandeur entre janvier 23, été 23 et aujourd'hui?
Écoute, on est monté jusqu'à 4-5, voire même quasiment 5 sur certains projets. Là aujourd'hui, tu vois, on en discutait avec un des directeurs d'Artemis d'une grande région qui nous a un petit point sur les taux. Eux, là, ils arrivent sur des investisseurs sur 25 ans à avoir 3,8, 3,9. Donc, tu vois, sur des bons profils, c'est pas toujours le cas, mais sur des bons profils, on est à 3,9, 4. Donc, on a quand même en tout cas, là, ça monte plus. Voilà. Et même, ça baisse dans certaines banques avec des bons profils.
Et ça, tu disais sur 20-25 ans, ça, c'est pareil, ça a continué à se financer sur 20-25 ans ou il y a eu aussi des périodes plus courtes?
Oui, alors 25 ans était clairement, en 2023, plus compliqué les 25 ans. Nous, on a eu beaucoup de demandes sur 25 ans, c'était plus dur. Là, ça s'assouplit un petit peu sur ça. Donc oui, on a eu sur des banques financées sur certains dossiers de manière, 25 ans, c'était pas possible.
Parce que du coup, est-ce qu'un prêt comme ça, c'est forcément... on dit souvent, ouais, mais c'est pas grave, signé pour 4%, vous renégocierez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'on a la possibilité de le renégocier de manière assez facile ou c'est juste de la négo dans 2, 3 ans, 4 ans si les taux rebaissent pour aller basculer dans une autre banque?
Ouais, alors déjà, oui, complètement. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a conseillé, c'est ce qu'on conseille aujourd'hui, de ne pas trop attendre en étant objectif, c'est pas pour leur dire allez-y, c'est maintenant, mais honnêtement, on a quand même une situation qui est plutôt bonne avec des projets qui se négocient. On a quand même des baisses, alors on pourra peut-être en reparler, mais pas sur tous les types d'investissement, typologie d'investissement, mais on a quand même des baisses. On a clairement un marché qui est à la baisse. Dans 6 mois, qu'est-ce que ce sera? C'est-à-dire que si les taux repassent à 3,5, potentiellement les vendeurs ils diront oui, mais moi j'arrête en fait, je baisse plus, et voilà. Donc c'est on pense que c'est un bon moment pour y aller sur ça. Donc sur les taux, après, oui, on peut renégocier. Ça peut, à partir du moment en fait, où tu achètes un bien, un investissement bien négocié, dans 2 ans, si tu attends, tu ne pourras pas renégocier ton bien. Alors que le taux, tu pourras. Alors, c'est pas toujours... déjà, il y a certaines conditions. En général, les spécialistes, les courtiers te disent plutôt, les banquiers, que c'est plutôt entre 0,7 et 1, entre l'ancien taux et le nouveau, il faut quand même qu'il y ait une différence. Et puis après, tu as des contraintes administratives et tu as des contraintes de coûts.
Oui, tu as des pénalités.
Voilà, tu as des indemnités quand tu changes de banque, avec notamment des frais de garantie, des frais de caution, des frais de dossier. Donc ça, il faut les prendre en compte. Mais oui, c'est possible. Voilà, c'est faisable.
Et j'ai vu il y a quelques jours aussi que le gouvernement voulait proposer d'amortir seulement une partie du financement et une partie à la fin pour justement avoir une mensualité plus faible. Ça, c'est des choses qui se négocient aussi de plus en plus avec les banques, là, ce qu'on appelle du coup la valeur résiduelle à la fin.
Oui, alors nous, pour l'instant, on ne l'a pas encore tellement eu, vu que c'est récent, donc on n'a pas encore eu tellement de projets avec cette souplesse-là. Donc voilà, on n'a pas trop de recul sur ça, mais oui, ça peut être tout à fait, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça rentrera dans une réflexion et pour optimiser le projet, clairement.
Ok. Ok, donc il faut quand même effectivement. Là aujourd'hui, on serait entre 3,8 et 3,9 là, sur du début 24. Quoi.
Ouais, alors,
pour les bons profils.
Sur des bons profils, voilà. En tout cas, oui, on est à 4 et on peut, sur certains projets, on peut être sous les 4.
Ok. Ouais.
Donc oui, c'est vrai qu'on voit clairement, c'est plus du tout la même chose qu'en septembre dernier, on était encore haut, ça montait. Là, bah voilà, l'inflation se stabilise, bah comme tu connais ça bien, bien sûr, la politique monétaire européenne est en train, voilà, donc on est en train quand même, c'est en train de se remettre au vert, donc on est plutôt confiant. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, j'ai aucune garantie qu'à l'été 2024, on ait des taux encore plus bas. Donc on reste très prudent. Nous, nos clients, on leur dit, voilà, aujourd'hui, si on a des taux, ça reste quand même intéressant, des taux qui baissent, ou se stabilisent ou baissent, voilà, c'est un bon moment. Maintenant, dans 6 mois, on fait attention.
Ouais. Non, mais tu as raison dans le sens où, effectivement, ton prix d'achat, enfin, ton prix d'acquisition, il est fixe et acté à vie, on va dire.
Ouais, bien
alors,
sûr.
Effectivement, ton taux d'emprunt, tu peux le faire varier.
Bah oui, moi j'ai eu un client il y a quelques mois qui m'a dit non, je vais attendre qu'un bon profil, on avait déjà fait un investissement ensemble, il me dit non, moi j'attends, il est urgent d'attendre, voir comment ça se passera, etc. dans un an. Etc. Bon, encore une fois, nous on n'est pas là pour leur mettre une épée dans le dos, mais je trouvais ça un petit peu dommage. Avec un bon profil, son taux, il pourra facilement le renégocier. Donc avec des projets, en plus je lui avais proposé un projet pas mal, qui avait une bonne renta, bien placé, etc. Et finalement il n'y est pas allé pour attendre. Donc je pense que c'est... Après voilà, nous on est encore une fois, on ne force pas du tout, mais bon, il y a quand même des bons moments pour investir. Je pense qu'en ce moment c'est un bon moment.
Ouais, bon, c'est peut-être plus de la frustration de se dire c'est dommage parce qu'effectivement il a un bon profil, il y a un bon projet, ça
voilà
match.
C'est ça,
ouais.
Et donc après il y a une notion de risque, voilà, si lui n'était pas prêt à y aller, il n'y a pas de problème pour ça, mais voilà, en tout cas on essaye aussi de bien les conseiller et de leur poser le tableau et de leur expliquer ce qu'il en est et une projection en étant raisonnable.
Ok. Et sur le financement, est-ce que toi tu constates que forcément les conditions sont toujours meilleures quand on passe par un courtier ?
Alors nous sur la partie financement, je pense qu'en effet, quand un investisseur est dans sa banque, ça peut être intéressant qu'il aille voir sa banque. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que le courtier, on le voit comme nous sur beaucoup de nos dossiers, va tout optimiser. Donc oui, en passant franchement avec du recul, en passant par un courtier, les conditions sont quand même en général sont meilleures.
Et le courtier peut aussi s'occuper de la négo avec sa propre banque, enfin, avec la propre banque du client.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Parce que ça, c'est, alors chez Artemis, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est le client qui paye le courtier ou c'est la banque qui le paye ?
Non, c'est le client qui paye le courtier. Après, c'est des frais qui peuvent être intégrés. D'ailleurs, qui peuvent rentrer, c'est des frais qui peuvent être amortissables et déductibles dans le cadre d'un LMNP, mais oui, c'est l'investisseur qui paye le courtier.
Et ça, c'est quoi ? C'est 1% moins ?
Oui, c'est ça, ça peut être 1%.
Okay.
J'ai peur, voilà.
Ouais. Ok, parce qu'on est quand même d'accord que ce sujet du financement, il est essentiel. Hein. Tu n'as pas de clients qui investissent cash aujourd'hui. On a toujours dit que l'immobilier sans levier, ça n'avait pas forcément d'intérêt.
Oui, complètement. Bah, aujourd'hui, le levier bancaire, le levier de la dette, il est bien sûr, il reste très important. Maintenant, nous, on a des profils qui veulent absolument, qui peuvent investir cash, voilà, qu'ont les moyens de le faire. Nous, on leur conseille quand même souvent de passer par le levier de la dette. Voilà. Après, le levier de la dette, faut être prudent. Hein. Faut pas trop pousser parce qu'il faut quand même que ce soit rentable, hein, que le coût de la dette soit pas supérieur à la rentabilité du projet. Mais oui, le levier de la tête, en tout cas, reste important.
Bah, de toute façon, il faut continuer, surtout en France. Hein, ouais. Si on arrive à trouver de la dette, on est quand même un pays qui finance plutôt bien, hein, et surtout à des taux fixes.
Bah exactement ce que j'allais dire. Taux fixes, il ne faut pas oublier. En Angleterre, ils ont des taux variables. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué.
Ouais.
Ouais.
Et j'avais une question aussi sur le financement. Oui, est-ce que du coup, si les taux montent, forcément, tu as des opérations qui ne s'autofinancent plus. Donc, soit effectivement, il faut mettre un peu plus d'apport, allonger un peu la durée.
Oui. Oui, tu as raison. On a souvent cette demande d'autofinancement, quid du cash flow, etc. Bon, ça, pareil, on est en période de taux haut quand même. Le cash flow positif, c'est quand même, ça reste. Nous, on est transparent sur ça. Hein. C'est pas forcément ce qui va se faire aujourd'hui. Donc, cette enveloppe, quand on a la possibilité d'avoir du cash, on peut justement passer par un levier bancaire. Enlever de la dette et optimiser avec un. Voilà, après, ça se fait projet par projet et de regarder si c'est important de mettre un plus ou moins d'apport si on veut absolument un cash flow. Donc, ça, après, on peut les ajuster avec le levier bancaire et l'apport. Voilà. Mais après, aujourd'hui, des projets financés à 100% ou à 110%, ça reste très compliqué.
Ouais. Oui, ou alors effectivement, tu as un effort d'épargne à faire, mais c'est acté dès le départ, quoi. C'est pas une surprise.
Oui. Oui, et puis d'avoir de l'épargne, c'est important si on veut avoir plusieurs investissements. C'est aussi ça va être de la négo auprès de sa banque. Donc voilà, en tout cas, c'est certain qu'on ne conseille pas à nos clients de mettre, s'ils ont 200 000 euros, de mettre en cash 200 000 euros dans un investissement. Ce serait dommage.
Ouais.
Voilà.
Ouais, parce que tu vois, si tu pars sur des taux, on va dire à 4% pour faire simple, alors qu'ils étaient, on va dire, à 1% il y a un an pour faire simple, ça veut dire que toutes les villes dans lesquelles le rendement moyen était aux alentours même de 5, ça ne fonctionne plus. Donc, est-ce que c'est ça qui explique aussi que les prix dans les grandes villes baissent, parce que du coup, il n'y a plus cet effet cash flow positif ou cash flow neutre?
Ouais, alors, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que sur la baisse des prix, c'est pas toujours forcément évident, parce qu'on voit par exemple dans nos villes, tu vas avoir des baisses de prix sur des plus grandes surfaces, tu vois, T4, T5, des grands appartements, des maisons. Malgré tout, les baisses de prix, elles sont moindres sur les plus petits projets. Tu vois, studio T1, T2, nous, ce qu'on fait quand même beaucoup dans nos villes, c'est pas si évident, parce que finalement, des investisseurs qui peuvent mettre 100 ou 150 000 euros, il y en a quand même, plus que de mettre 600 000 euros. Donc, oui, ça baisse, mais on a des niveaux de baisse qui sont moindres sur ces projets par rapport à des T4, des grands appartements. Donc,
et pourquoi ces prix baissent moins? Est-ce que c'est plus liquide?
C'est plus liquide, en fait, exactement. C'est plus liquide sur un projet, par exemple, voilà, Nantes ou à Rennes, sur un projet à 130 000 euros, tout compris, tu vois, avec un prix d'achat, frais d'agence inclus, entre 100 et 110 000 euros. C'est des choses qui sont plus facilement finançables avec des profils corrects, tu vois. Donc oui, c'est demandé. Et d'ailleurs, moi, j'en ai beaucoup discuté ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les agents IMO avec qui je travaille et qui on a un partenariat. C'est quand même ce qu'ils me disent. C'est qu'aujourd'hui, sur les maisons, les grands appartements, c'est compliqué. En revanche, ils font du volume sur les petits projets liquides qui sont vraiment plutôt investisseurs.
Et pourquoi la banque finance mieux? Parce qu'elle pense aussi que ça se loue plus facilement.
Ça se loue plus facilement. En effet, c'est plus liquide. Tu vas avoir potentiellement... tu peux avoir plus facile, enfin l'apport va être plus facile si tu mets 20 ou 30 000 euros dans un projet à 100 000 versus 20 ou 30 000 euros dans un projet à 300 000, c'est pas la même chose en fait. Donc la banque va plus facilement suivre aussi sur ce type d'investissement.
Voilà. Et ça, là, vous, la stratégie de vos clients, c'est justement j'imagine pas que d'en faire un, enfin, en tout cas de commencer par un, parce qu'évidemment il faut toujours commencer, mais c'est de faire assez rapidement un petit portefeuille de 2, 3, 4, 5.
Oui, exactement. C'est vrai que surtout, même, on voit bien, nous on a des enveloppes qui sont quand même réduites. Donc finalement, sur des bons profils, en tout cas sur des bons profils qui pourraient peut-être mettre plus, aujourd'hui on est quand même plutôt, les multiplier, donc faire 1, 2, 3, commencer par un premier, T1, après un petit T2, tu vois, il y a cette volonté d'en avoir plusieurs.
Parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux des gens qui ont acheté de l'immobilier, qui ont atteint la liberté financière, etc. etc. Donc beaucoup des histoires en termes de marketing plutôt bien racontées, mais est-ce que toi, dans tes clients, t'en as qui, au bout de 4-5 ans, ont réussi à, alors peut-être pas atteindre la liberté, mais en tout cas, à monter un certain niveau de flux financiers pour pouvoir presque en vivre?
Oui, alors non, ça c'est du mythe d'influenceur. Ce que tu peux voir sur YouTube, comment devenir millionnaire. Donc non, bien sûr que non. Et pourtant, nous, depuis 4 ans, on n'a pas un investisseur, pas un client qui peut vivre de ses rentes, hein, pas du tout.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de rente, parce que finalement, ça rembourse la dette.
Oui, voilà.
Ou alors, tu as un tout petit cash flow positif éventuellement, mais
exactement,
en fait,
exactement,
tu verras ça dans 20 ans, en fait.
Voilà, exactement. En fait, l'investissement, c'est du long terme. Mm. Donc non, tout ça, c'est des histoires à dormir debout pour faire du clic et pour faire des vues. Donc c'est... Et d'ailleurs, on a quand même... Je pense qu'on a quand même, sur notre portefeuille de clients, des bons profils. Il n'y en a pas un, en effet, qui... Ils en ont fait plusieurs avec nous. Ça peut être des immeubles, plusieurs apparts et tout. Il n'y en a bien sûr pas un qui a envie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment nos clients, c'est une stratégie de long terme, patrimoniale. Après, tu peux mixer, hein, le patrimonial, le rendement, mais en tout cas, patrimoniale sur le long terme. Voilà, se constituer un complément de revenu demain, investir aussi pour ses enfants, etc. Donc, c'est pas du tout... on n'est pas du tout sur ces... sur cette typologie de projet d'influenceur.
Bah, quand tu dis effectivement faire une rente pour demain, c'est est-ce qu'il faut toujours avoir en tête, vu que c'est des cycles quand même longs en immobilier, de vraiment se construire ça sur du très long terme, hein, parce que c'est quand tu parles de 15, 20, voire 25 ans, j'imagine que l'objectif, c'est quand même d'aller au bout de cette durée-là pour ensuite effectivement avoir un actif libre de dette pour verser effectivement du loyer ou de se refinancer pour dégager du cash. Mais est-ce que c'est vraiment la stratégie qu'il faut garder aujourd'hui de faire du très très long terme, parce que c'est des actifs qui s'autofinancent sur du long terme?
Écoute, après, je vais prêcher un peu pour ma parole. Maintenant, tu peux aussi avoir un mix, pas un mix énergétique, mais un mix d'investissement. Donc, ça peut être du très long terme ou du long terme comme de l'immobilier. Mais encore une fois, j'ai des clients qui aujourd'hui, au bout de 4 ans, pensent peut-être à revendre leur investissement parce qu'ils peuvent déjà faire une bascule. Après tous les frais, parce qu'ils ne l'ont pas acheté très cher, parce que malgré tout, depuis 4 ans, l'immobilier monte. Donc, sur des villes qui sont dynamiques, économiquement, avec de la demande, etc., même finalement un projet d'il y a 4 ans, on peut aujourd'hui refaire une petite plus-value. Donc, oui, c'est du très long terme, mais finalement, au bout de 5-10 ans, sur des projets où voilà, c'est bien acheté, où on a fait des travaux, on a optimisé le bien, on a optimisé l'actif, tu peux retomber sur tes pattes finalement assez vite. Pas en 2 ans, mais quand même en quelques années, tu peux, voilà. Et puis après, nous, on a aussi pas mal de clients qui diversifient leur patrimoine, qui vont faire du meublé, qui vont faire de la SCPI, qui vont, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui rentrent dans une stratégie patrimoniale. Donc l'immobilier long terme, je pense, a toute sa place. Ouais. Mmh. Ouais.
Et vous avez des clients, à l'inverse, qui viennent chercher du court terme, type opération un peu de marchand, ils achètent pas très cher, ils font les travaux dans le but de revendre vite?
Un petit peu, on l'a eu, mais c'est quand même assez à la marge. Ouais. Voilà, on est plutôt vraiment... Nos typologies d'investisseurs, c'est plutôt trentenaire, quarantenaire. On a beaucoup de Parisiens qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui veulent utiliser leur capacité d'endettement pour investir, faire un, deux, trois investissements. Donc voilà, on a différentes typologies d'investisseurs.
Ça, celui qui n'est pas propriétaire, qui en fait un, deux ou trois, c'est quoi lui son but? C'est d'en faire 4, 5 et de tout revendre pour un jour s'acheter sa résidence principale, ou c'est de rester comme ça
Bah c'est ça, en fait. Après, ça dépend. Tu n'as pas de profil type, hein, mais tu en as en effet qui vont considérer, de toute façon, qu'ils veulent rester à Paris et que pour avoir un bien équivalent, de toute façon, ils ne pourront pas. Donc oui, là, ils ont plutôt une stratégie de faire de l'investissement pour se construire un patrimoine. Et on en a d'autres qui se... Après, il y a différents cas, mais on va avoir d'autres investisseurs qui aujourd'hui sont à Paris. Dans 2-3 ans, ils ne le seront peut-être plus. Donc en attendant, ils louent, ils font des investissements, et puis quand ils partiront, s'ils arrivent n'importe quoi à Brest par exemple, et ils revendront peut-être un ou deux de leurs investissements, et ça, le capital permettra de d'acheter leur résidence principale. C'est aussi, en fait, c'est un peu d'ailleurs l'investissement, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu finances ton investissement par de la dette, ton loyer rembourse en partie, en tout ou partie, il faut être prudent maintenant avec des taux quand même qui sont plus hauts, cet emprunt. Voilà, demain, tu peux le revendre et le capital immobilier que tu auras capitalisé, justement, tu pourras le réutiliser pour le réinvestir en apport supplémentaire pour ta résidence principale. Donc, c'est vrai que c'est quand même un cercle vertueux qui peut correspondre à plein de typologies d'investisseurs.
Mmh. Voilà. Oui, chacun sa stratégie en fonction effectivement de sa situation.
C'est ça.
Sa situation actuelle et ses ambitions aussi pour la suite.
Ouais,
parce que moi, j'ai l'impression de voir quand même de plus en plus de gens qui décident effectivement de rester locataire pour effectivement investir plus. Mais on voit aussi que les banques demandent souvent d'être propriétaires aussi. Donc, dans quelle mesure le fait de ne pas être propriétaire peut un peu bloquer le financement?
En fait, c'est Là, on revient sur la question du courtier, justement. C'est-à-dire que chaque banque a des politiques différentes. Tu as des banques qui vont prendre ton revenu locatif 70%, d'autres qui ne vont pas le prendre du tout, d'autres qui vont prendre 80%. Donc, chaque banque va avoir voilà, une politique interne différente. Donc là, ça dépend. En fait, je n'ai pas de réponse type parce que ça va vraiment dépendre de l'accompagnement bancaire.
Ouais. Ok. Bon, écoute, c'est assez clair hein, sur la partie financement qui est un peu la première question. Est-ce qu'il faut continuer à investir? Bon, de toute façon, on a quand même conscience que les cycles longs ont fait qu'il faut toujours investir. Parfois, on achète un peu cher et parfois un peu moins cher, mais que ça s'équilibre. Oui. Si on part du principe qu'on a effectivement qu'on a un bon dossier, qu'on est finançable, qu'on est peut-être accompagné par un courtier parce qu'on a besoin d'aide pour négocier les conditions. Si on se dit « Ok, maintenant j'y vais », qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on continue à regarder comme on a l'habitude de faire, proche de chez soi, dans des villes qu'on connaît, ou est-ce qu'on va justement explorer d'autres zones moins connues, mais peut-être avec plus de rendement pour faciliter le financement?
Ouais, ok. Alors nous, sur ces villes-là, sur nos villes, on a différentes villes. C'est-à-dire qu'on va avoir des villes patrimoniales, Paris, Lyon, Bordeaux. On va avoir des villes équilibrées, on appelle ça équilibré, donc ça va être Nantes, Rennes, Tours, Angers, donc des villes où tu n'as pas un rendement incroyable. Mais tu peux allier les deux. Voilà. Puis après, on va avoir des villes un petit peu plus de, comment dire, de rendement, un petit peu plus agressif sur le rendement. Donc Lorient, Quimper, Dijon, Reims. Donc voilà. Donc après, c'est un choix. Donc sur le fait d'investir près de chez soi, en fait, encore une fois, ça dépend. En fait, vraiment, on n'a pas de. T'as des investisseurs qui s'en fichent complètement, qui, eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est un projet sympa avec des critères, mais qui tient la route, voilà, qui est simple. Voilà. Après, tu vas avoir des investisseurs qui veulent investir dans leur ville, dans une ville qu'ils connaissent, parce que ça les rassure, parce qu'ils peuvent venir, ils ont un oncle, une tante, hein, voilà, etc. Donc ça dépend vraiment des profils. Donc moi, j'ai pas forcément de. Enfin, sur ça, sur le conseil qu'on donne en amont, on voit bien aussi sur le. On va pas forcer, on va pas emmener, par exemple, si un investisseur veut Nantes, absolument, je ne vais pas le pousser absolument à aller dans une autre ville. Voilà, donc nous, on s'adapte aussi à ce que veulent nos investisseurs. Après, voilà, nous, on a un rôle de conseil sur l'amont, sur s'ils nous disent, moi, je veux vraiment un projet qui va avoir plus de rendement. Bon, automatiquement, je vais pas l'envoyer forcément à Paris. Hein. On va plutôt aller chercher une autre ville. Et on a souvent cette demande sur la ville. Ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas de choix définitivement arrêté.
Ouais, bah après, je pense qu'il y a une histoire de confiance aussi où, si toi, tu me dis, voilà, j'ai un super dossier à Rennes, forcément, je sais que tu connais bien la ville, que tu la maîtrises, tu sais que c'est un bon prix, que ça va se louer, etc. Bah forcément, ça me met en confiance de me dire, ok, si moi, je te dis, j'ai trouvé un truc à Grenoble, tu vas dire, ok, moi, je ne connais pas forcément Grenoble, peut-être que c'est très bien, mais en tout cas, toi, tu n'as pas la possibilité de me conseiller. Donc, il y a aussi cette notion de proximité, proximité-confiance.
Alors, ouais, en effet, c'est hyper important parce que nous, WeCare, depuis le début, depuis plus de 4 ans, nous, la clé, vraiment, notre ADN, c'est avoir vraiment une vraie confiance. Alors, c'est pas juste un argument marketing, mais c'est la réalité, une vraie confiance entre nous et l'investisseur. C'est très important parce qu'il va y avoir un accompagnement sur plusieurs mois. Donc, il faut tout le monde, voilà, qu'il y ait une confiance qui s'instaure. Donc, sur ça, nous, les associés, donc Rock, Tom et moi, on fait le même boulot que nos responsables de ville. Voilà. On fait l'opérationnel. On connaît parfaitement notre secteur, on connaît nos villes. C'est vrai. Maintenant, nos mandataires, nos responsables de ville, ils ont ce même, souci de bien faire. Donc ça, c'est. Donc si tu me dis, moi, je veux Bordeaux. Thomas à Bordeaux, il connaît parfaitement sa ville et il va parfaitement. Enfin, l'accompagnement va être aussi bien que nous, même mieux. Donc je veux dire, il n'y a pas de. Sur ça, c'est très important pour nous. Et tu vois, nous, les villes qu'on ouvre, c'est pas juste pour ouvrir des villes. C'est aussi que la personne sur place, elle soit voilà, une personne de confiance, qui ait de l'expérience dans l'immobilier, qui connaisse sa ville et qui soit en capacité d'accompagner sur l'ensemble du process. C'est pas juste un agent immo, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais un agent immo qui va juste faire sur la vente. Nous, on va au-delà, donc il faut vraiment qu'ils connaissent bien les mécanismes. Donc, tout ça, c'est important. Donc, les villes qu'on ouvre, il y a toujours des bons profils dans les villes. C'est important.
Et dans les villes que vous couvrez là aujourd'hui, ce qui est une notion moi, que j'aime bien, qui sont un peu les anomalies de marché, donc des villes où les prix sont anormalement bas et les loyers sont pas énormément élevés, mais en tout cas sont assez élevés. Est-ce qu'il y en a dans celles que vous couvrez?
Alors, avec des, par exemple, des prix de marché assez faibles, tu veux dire?
Oui, et un rendement, enfin une tension locative assez bonne,
Alors.
Qui sont un peu des anomalies. C'est bizarre, par exemple, je te donne un exemple. Je sais que alors moi, j'habite à Lille, donc j'ai un regard peut-être plus précis là-dessus, mais une ville comme Tourcoing, aujourd'hui, tu achètes sur des rendements à 10% avec des prix à 1500, 2000 euros du mètre. Donc, tu te dis, tu as des prix pas très chers, donc tu as possibilité de monter, et tu as des loyers assez élevés et une grosse tension, une ville à 100 000 habitants. Qui est pour moi un peu une anomalie où tu as un prix pas cher et un rendement assez élevé. Quoi.
Ah oui, ok. Alors, nous, sur les villes, nos 19 villes, on n'a pas des. Ce n'est pas des villes avec des rendements à 15%, quoi, tu vois, 10-15%. C'est des villes qui sont. On a des grandes villes, grandes métropoles, on a des villes moyennes. Donc, c'est des villes qui sont dynamiques économiquement. Il y a beaucoup d'étudiants, donc une forte tension locative. De toute façon, aujourd'hui, la tension locative, elle est quand même assez, assez flagrante. On le voit, c'est sûr, dans toutes nos villes. Donc maintenant, non, on n'a pas... on a des villes avec des prix de marché qui sont plus faibles. Tu vas voir Brest, Lorient, Dijon. On a des, voilà, on a New York, hein, qu'on a ouvert il y a peu, qui est une ville super intéressante. Donc... voilà, après une anomalie, je ne sais pas si c'est des. On n'a peut-être pas des rendements comme à Tourcoing à 10%, mais on peut avoir sur ces villes-là, en tout cas dans nos villes, plus rendements. On a des rendements à 8-9, on peut arriver à 8-9%.
Ouais. Et vous avez des villes justement où tu sens que c'est le moment d'investir dans cette ville-là parce que, un peu sous-côté, parce que, tu vois, une ville comme New York, moi je sais à peine l'instituer sur la carte, mais justement, peut-être que c'est intéressant parce qu'elle n'est pas encore trop regardée, un peu comme Tours à l'époque. Moi je veux dire que Tours, il y a. 5, 6 ans, 7 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, on sait qu'il y en a qui y habitent et travaillent à Paris. On sait que les prix ont bien monté. Est-ce qu'il y a d'autres villes comme ça où tu sens qu'il y a un potentiel?
Après, bon, je ne vais pas l'idée forcément de faire un top 10 de nos villes, mais top 5 de nos villes. Après, oui, tu parlais de New York. New York, c'est une ville en effet très intéressante parce qu'en plus, il y a toutes les mutuelles. C'est vrai, donc c'est pour de la location, c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, il y a beaucoup de villes en France, on n'y pense pas toujours, donc qui peuvent être très intéressantes. Après, ça dépend ce qu'on veut, en fait, c'est toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu mal à l'aise de faire des classements de villes, parce que ça dépend sur ce que l'investisseur souhaite. Si un investisseur il souhaite investir à Nantes, par exemple, parce qu'il se dit que c'est très dynamique, on n'est pas loin de Paris, etc., c'est aussi un investissement qui est aussi intéressant sur le long terme, parce que c'est des villes, malgré tout, avec des prix au mètre carré qui montent, en effet plus élevés. Mais un investissement à New York va aussi être tout aussi intéressant si on veut plus de rendement. Donc, en fait, ça va dépendre un peu, encore une fois, ça fait un peu une réponse de Normand, mais ça dépend un petit peu de ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément... voilà, ça. Si on veut investir, tu parlais tout à l'heure, investir près de chez soi, si la personne est rennaise, ça a fait tout son sens d'investir à Rennes. Si l'investisseur souhaite, il s'en fiche complètement, il est prêt à aller dans d'autres villes et il veut du rendement, si vraiment son axe c'est ça, donc nous on va l'orienter en effet vers une ville qu'on connaît moins, qu'il va peut-être moins connaître et il n'y pensait pas forcément, dans tout ce qu'on parlait. Dijon par exemple, tu parles de Dijon, c'est une ville très intéressante. C'est un petit peu, on n'y pense pas toujours, mais c'est des villes économiquement qui sont dynamiques. Mais bon, maintenant, on a quand même un renouveau depuis plusieurs années, un renouveau des villes moyennes. On en parle beaucoup sur la qualité de vie, beaucoup de Parisiens qui quittent aussi Paris pour des villes. Voilà, donc ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années où les villes moyennes reviennent et il y a une attractivité plus forte, ça c'est sûr.
Et il y a des villes aussi où il y a un petit peu des... ce qu'on pourrait appeler des fausses croyances, en pensant que, effectivement, à l'inverse de l'anomalie, de se dire qu'en fait, c'est pas une ville si dynamique ou c'est pas une ville où les prix montent tant que ça.
Non, on n'a pas trop ça. On peut avoir des croyances inverses en se disant, finalement, cette ville, on trouve que le prix au mètre carré va être trop élevé. Et puis on se rend compte, par exemple, je suis un peu pour ma paroisse, Nantes. Souvent, on dit, oh, Nantes, ça va être cher au mètre carré. Ça dépend. En fait, ça dépend où on investit. Voilà, tu as des villes où tu as beaucoup de quartiers, de quartiers sympas, et tu peux trouver des bons projets avec des rendements vraiment bons, même dans ces villes qui sont dites, avec des prix trop élevés. Donc on a plutôt ce côté-là. Mais c'est aussi, c'est aussi notre force chez WeCare, vu qu'on a, ça on n'en a pas parlé, mais nous c'est un interlocuteur dans chaque ville. Il n'y a pas 10 personnes. Si tu viens chez WeCare, tu peux avoir 10 personnes différentes qui vont t'accompagner sur la recherche, un sur la négo, un sur les travaux. Donc, c'est une personne qui connaisse leur ville. Donc nous, on est en capacité de trouver dans nos villes des projets intéressants. Voilà. Mmh. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on souhaite, hein, mais voilà.
Et il y a des villes complètement à l'inverse où tu déconseillerais peut-être d'investir parce que ça décline, parce que il y a une université qui a fermé ou il y a
Non, bah, honnêtement, aujourd'hui dans nos villes, non, parce que sinon, si je pensais ça, on l'aurait fermé. Hein,
non, mais au-delà de celles que vous couvrez, des villes où tu dis, bah ça, je sais pas, Mulhouse ou je sais pas quelle ville, ça là, je recommande pas parce que effectivement, c'est pas effectivement depuis 10 ans ou 20 ans, c'est plutôt la population baisse, le nombre d'étudiants baisse, etc.
Alors. Donc, en tout cas, dans nos villes, c'est les villes que nous, on a ouvertes, nos 19, je peux pas, voilà, parce que si on les ouvre, c'est qu'on considère qu'on trouve qu'elles ont un potentiel, elles ont un intérêt. En revanche, oui, il y a des villes qu'on n'ouvrirait pas. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans une Wikia, on vend pas de la renta, en fait. On vend un projet, un service d'accompagnement pour se construire un patrimoine, voilà, si on en parlait tout à l'heure, sur du long terme. On n'est pas des vendeurs de renta. Donc oui, il y a des villes où on n'irait pas, parce que même si on te dit, attends, cette ville, tu peux avoir 12% de renta. Oui, mais après, ça dépend, est-ce qu'on arrive à le louer toute l'année? Est-ce qu'il n'y a pas des turnovers compliqués, des remises en loc impossibles? Donc nous, on est plutôt, on a un conseil de prudence sur certaines typologies de villes. Voilà. Ah oui, investir à Guéret, par exemple, je pense qu'on n'irait pas. Voilà, ça la creuse. Voilà, c'est ça. Donc après, voilà, faut être aussi, en effet, l'emplacement, voilà, on sait tout ça, hein, l'emplacement, c'est clé. Donc voilà, en tout cas, dans nos villes, ce sont des bonnes villes. Et après, au sein des villes, nous, on sait exactement où est-ce qu'il faut investir. Voilà. On a vraiment ce rôle de conseil qui est important.
Ouais, j'en ai pas parlé au début, mais effectivement, je précise aussi que on se connaît par le passé, hein, parce qu'on a passé pas mal de vacances en Bretagne Nord. Et justement, qu'est-ce que ça donne l'immobilier dans le coin de Dinard, Saint-Malo?
Alors nous, on fait pas des villes côtières, parce que c'est plus. Alors Saint-Malo, Airbnb, je sais pas si tu as suivi un peu, mais ils serrent les boulons là depuis déjà plusieurs années. Donc on ne fait pas de ville côtière. En revanche, je connais quand même un petit peu l'immobilier. C'est un immobilier très particulier. C'est l'immobilier, résidences secondaires ou pas que résidences secondaires, hein, mais qui sont assez élevées. Voilà, donc ça, c'est un immobilier qui se porte bien, je pense.
Vous n'avez pas fait de projet de locatif
Non. Ça... Non, on n'a quand même pas beaucoup de demandes. Enfin, même quasiment pas d'ailleurs. C'est vrai que les villes côtières, ça va plutôt être quand même de la courte durée, la location saisonnière. Ouais. Nous, on fait vraiment de la location longue durée.
Ouais, c'est pas forcément la stratégie des clients derrière.
Voilà.
Et si on essaie d'ouvrir un petit peu les frontières, est-ce qu'il y a des villes, on va dire, limitrophes à la France, pardon, qui rentreraient dans vos critères des 19, là?
Non, aujourd'hui, on est prudent. Voilà, on ouvre des villes en France. Certains, on en parlait peut-être, sont un peu brûlés les ailes. Donc, je pense nous, on va sur un marché qu'on connaît. Aujourd'hui, moi, je pense que je peux parler pour mes associés. On n'a aucune connaissance du marché espagnol ou portugais ou suisse, quoi. Voilà. Donc.
Oui, mais tu vois, sur New York, je pense que tu avais aucune connaissance, toi, sur New York. Vous avez pris quelqu'un qui connaît le marché. Est-ce que tu pourrais trouver un espagnol qui va te couvrir une ville?
Alors, tu as raison, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que nous, OK, New York, on ne connaissait pas forcément. Mais on connaît quand même les dispositifs fiscaux applicables nationaux. Donc, on sait qu'est-ce qu'un investissement français. Aller sur un marché complètement différent, moi, je ne sais pas ce qu'est un bon investissement en Espagne, par exemple, tu vois. Donc, même si on a un très bon espagnol sur place, faut quand même connaître les dispositifs nationaux.
Effectivement, on voit pas mal de plateformes ou même d'investisseurs qui se tournent vers des pays, alors certains limitrophes à la France, mais d'autres un peu plus loin. J'ai vu la semaine dernière qui proposait tout en Amérique latine. Why not, hein? Il dit, oui, on a des rendements à 20%, c'est hyper stable, etc.
Pourquoi pas? Moi, franchement, j'ai pas de jugement sur ça. De toute façon, il y a une part de risque. Donc, si l'investisseur veut prendre le risque, il le prend. Mais peut-être qu'il fera un super projet. Donc, c'est vrai que nous, j'ai pas de. Voilà. Nous, en tout cas, on reste sur un marché qui est national, sur un marché qu'on connaît, sur des produits qu'on connaît, fiscaux, etc. Donc, on reste. En tout cas, il n'y a pas de projet européen pour week-end.
Bah, j'ai l'impression que c'était un petit peu votre positionnement, finalement, de le côté bon père de famille, qui est un terme maintenant qu'on utilise quand même pas mal dans l'investissement, qui est une vraie définition de dire voilà, c'est du long terme, c'est du pas trop risqué, c'est toujours un peu de risque, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une gestion long terme, assez bien bordée en termes financement, notaire, etc.
C'est ça.
Et si on passe un peu à l'étape suivante, hein, une fois finalement qu'on est finançable, qu'on a trouvé le bon bien dans la bonne ville. Tu disais que vous occupez de la partie travaux, ça pareil, c'est internalisé ou c'est des partenaires aussi?
Oui, alors en effet, bonne question. Non, alors nous aujourd'hui, WeCare, on n'a pas internalisé les travaux. Ça a été on en a longtemps discuté avec mes associés. Aujourd'hui, nous, juste peut-être, je vais préciser sur les travaux, mais sur les honoraires WeCare, quand on vient nous voir, nous, c'est un pourcentage sur le net vendeur, c'est 7% net vendeur avec un plancher. Donc un minimum de menace, mais un plancher de 7000 euros TTC. Voilà. Ce ticket-là, ça englobe tout le projet, jusqu'au premier locataire. Hein, la gestion, c'est différent, hein, c'est un autre pricing. Il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de ticket sur l'ameublement, on ne se rémunère pas sur les travaux. C'est-à-dire que, on n'a pas internalisé, ce que je pense que après, certains le font, donc voilà, il n'y a pas de... Encore une fois, nous, c'est notre modèle. On n'a pas souhaité internaliser, parce que je pense que c'est compliqué, surtout on est dans beaucoup de villes. Donc je pense que c'est un marché avec les artisans dans des villes différentes. Je pense qu'il est difficilement duplicable par ville. Donc pour nous, c'était un peu le mur en face de nous. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va... Voilà, on ne peut pas avoir une équipe qui fait 19 villes, c'est pas possible. Donc on préfère fonctionner avec des artisans locaux qu'on connaît, qui sont sur place. C'est plus opérationnel. Et on ne prend pas de ticket dessus. C'est-à-dire qu'on ne se rémunère pas un devis à 10 000 euros de rénovation. WeGear ne prend pas à 3 000 euros. Quoi. Voilà. Et ça, on le dit dès le début. Voilà. C'est important parce que c'est aussi, on parlait de la confiance, ça, là, ça en fait partie. Voilà.
Donc là, vous avez dans chacune de ces villes-là un ou plusieurs partenaires.
C'est ça.
Qui eux ensuite facturent le client directement.
Exactement. Okay. Ouais, c'est ça. Nous, on est l'interlocuteur entre le client et l'artisan. C'est-à-dire que ça, tout... on n'est pas donneur d'ordre, hein, parce qu'on n'a pas, d'assurance sur ça. Donc on n'est pas un donneur d'ordre, on n'est pas maître d'œuvre. Donc on met en relation nos clients avec les artisans. Et nous, après, on a un rôle sur place. On est un peu le passeur de flambeau. S'il y a un souci, on est là. Mais après. In fine, c'est notre client qui prendra la décision, c'est pas nous.
Voilà. Et ça, pour la partie ameublement, même principe ?
Même principe, ameublement, on fonctionne à 95% par IKEA. Donc on a des poules sur place avec des équipes qui vont chercher qui montent les biens, qui montent les meubles. Et ça,
ça, c'est une personne, par exemple, imaginons, là, j'ai un appartement, etc., les travaux sont faits.
Oui.
Il y a des espèces de packs ou des choses comme ça que vous proposez ?
C'est ça, en fait, dans le budget par exemple, ameublement, dans ce budget-là, on intègre une presta de livraison ameublement. Voilà. On se rémunère pas dessus, mais sur un ticket de 3500 euros sur un T1 par exemple, c'est intégré dedans. Donc après, c'est sur facture qu'on envoie directement au client.
D'accord. Voilà. Et donc ça, vous avez ensuite quelqu'un qui va sélectionner, livrer et monter.
C'est ça. Sélectionner, c'est nous qui le faisons en amont. Hein. On a des listes types qu'on peut ajuster. On a de la souplesse sur ça. On n'impose pas une liste manu militari. Il y a de la souplesse. Moi, tu vois, là, récemment, à Nantes, j'ai fait... C'était un ameublement IKEA. Ils ont voulu mettre une table basse, des chaises avec une autre société d'ameublement de meubles et donc voilà, donc il y a pas de problème, on s'adapte, on est assez souple. C'est aussi ça la force de WeCare, c'est qu'on n'est pas une énorme usine à gaz, on a de la souplesse dans nos villes, donc de la souplesse aussi pour nos investisseurs. Voilà.
OK. Et vous avez des clients eux qui sont jamais venus voir le bien immobilier?
Oui, on a beaucoup. Alors, nous on conseille en général de venir quand même avant la signature de l'avant-contrat, du compromis de vente. Maintenant, moi, il y en a pas mal qui sont jamais venus, qui n'ont jamais vu le bien. Pardon, excuse-moi. Ce qu'on fait, nous, on leur envoie une petite vidéo, des photos, etc., une projection financière. Donc, ils ont les informations. Après, voilà, c'est libre. On n'en impose pas, on leur conseille quand même de venir voir. On pense que c'est quand même mieux.
Oui, ok. En tout cas, ils sont pas. Le service que vous proposez permet de pas forcément se déplacer.
Oui, bien sûr. Okay. C'est vraiment l'objectif, c'est d'investir quand on est loin ou pas, et de pas avoir ces contraintes-là. Maintenant, c'est toujours. Après, à titre perso, je trouve ça plus sympa de voir son invest. Hein, voilà, mais.
Ouais. Et sur la dernière partie qui est pour moi quand même assez clé, hein, qu'on l'oublie parfois quand même un peu, mais sur la location, enfin la location et la gestion.
Oui.
Parce que pour moi, c'est le principal, pas le frein, mais en tout cas, c'est le point de vigilance, parce que t'as beau acheter au meilleur prix, financer de la meilleure des façons, faire les meilleurs travaux, etc. Si à la fin, c'est vide, ou si c'est mal loué, ou si t'as un locataire qui paye plus, ça dégrade toute la performance.
Donc,
est-ce que vous avez créé du coup votre dispositif de gestion pour essayer de faire mieux que ce que ferait la personne toute seule ou avec un partenaire ou en bricolant? Comment vous faites pour avoir rajouté ce petit maillon qui était peut-être le maillon manquant de la chaîne?
Oui, complètement. Donc oui, sur la gestion, nous, c'est internalisé pour le coup. Les travaux ne le sont pas, mais la gestion l'est. On a une directrice de la gestion locative qui pilote nos villes. On a une plateforme de de gestion locative. Voilà, donc en tout cas, tout est internalisé. Pour nous, c'était important de pas avoir un partenaire à côté qui prendrait la main sur la gestion et sur les remises en log. Donc nous, voilà, nous on garde la main sur ça. Encore une fois, tout se passe par ville, hein. On a un pilotage un peu national avec notre responsable de gestion sur les loyers, etc.
Elle s'occupe de toutes les villes ?
Oui, elle s'occupe de toutes les villes. Mais sur la partie loyer, sur la partie comptabilité, sur la partie opérationnelle, s'il y a une chaudière ou pas une chaudière, ben voilà, un chauffage à changer, etc. Là, pour le coup, la main, c'est notre responsable de ville qui pilote aussi la gestion.
Okay.
Voilà. Donc on a dissocié, on a la responsable de gestion qui va s'occuper de, via la plateforme, de réceptionner les loyers, etc., les paiements, en fin d'année, les documents, les comptes rendus de gestion, etc. Et sur la partie plus opérationnelle dans les villes, là, c'est notre responsable de ville qui prend la main et qui gère ça.
Voilà. Okay.
Parce qu'en fait, il a son équipe d'artisans pour les petits travaux, etc. Donc, ça faisait sens, en tout cas, que ce soit comme ça. Mais on voulait vraiment garder la gestion en interne. Parce que, comme tu dis, c'est très important. Il faut être disponible. Nous, on ne voulait pas d'une grosse structure où tu n'arrives jamais à avoir personne. Il n'y a personne au bout du fil. Il n'y a pas de mail, etc. Donc, nous, on est quand même super disponible pour résoudre quand il y a des problèmes. S'il y en a, en tout cas, on est sur place et on est dispo. Et je pense que c'est important.
Et la personne aujourd'hui, il y a combien de lots en gestion?
Bon, écoute, aujourd'hui, on doit avoir 150 lots.
Okay.
Après, on reste petit, hein, par rapport à des très gros. Mais en tout cas, ça monte bien en puissance.
Voilà. Ah bah, j'imagine que la conversion des gens qui investissent avec vous, qui basculent en gestion, va être énorme.
Oui, elle est vraiment importante. Et puis même, on en récupère parfois. Encore une fois, on a un pricing qui est raisonnable, hein, c'est 5% des loyers, et on a des frais de remise en location, donc on reste quand même assez raisonnable, en sachant que, tu sais, c'est des charges qui peuvent être déductibles dans un investissement LMNP, donc ça, voilà, je pense que c'est intéressant. Et puis la gestion, c'est vraiment la partie un peu chiante, quoi. Pardon pour le mot trivial, mais c'est vrai que c'est gérer les locataires, faire intervenir l'artisan parce qu'il y a un chauffage qui marche pas. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu, quand t'es investisseur, t'as pas envie de t'occuper de ça, quoi. Donc oui, c'était important qu'on l'internalise.
Et sur la, juste reviens un peu sur la partie travaux, on en parlait un petit peu, hein, sur la partie des DPE là, c'est justement. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ces sujets de rénovation énergétique. Est-ce que vous êtes parfois appelé justement juste pour cette partie travaux, ou est-ce que en fait les gens n'ont pas le réflexe parce qu'ils vont trouver l'artisan directement?
Non, alors nous, sur les DPE, oui, on a impacté clairement, hein, parce que oui, t'as un vrai enjeu sur la location et sur la vente de main. Alors nous, non, on n'a pas de personnes qui vont nous appeler spécifiquement pour faire des travaux dans leur appartement, pour remonter d'une lettre. En revanche, c'est vraiment un critère qui est très important. C'est-à-dire que pour nous, ça fait vraiment partie des top 3 ou top 2 en critères.
De l'investisseur ?
Alors, nous, on fait très attention à ça. Alors,
oui, c'est de la pédagogie que vous faites.
C'est de la pédagogie, mais là, depuis 2 ans, le DPE est un critère très important pour nos investisseurs. Sans même, on n'a même pas forcément besoin de leur en parler.
Ah oui.
C'est un critère. Moi, j'avais récemment des investisseurs à Nantes. Le critère, c'était DPE en C. Voilà. Donc non, c'est même d'ailleurs des locataires. Hein. Moi, j'ai très souvent, quand on fait des mises en loc, c'est aussi un sujet locataire. Locataire, oui, le DPE est de combien en termes de consommation énergétique, etc. Donc c'est quand même c'est un sujet qui est connu et qui est important. Donc voilà. Donc en tout cas, nous, on fait attention à ça. On va sur des projets, on va quand même pas beaucoup sur des projets en FEG. En tout cas, je suis assez prudent parce que, comme tu sais, sur les, pour remonter des notes, des lettres en classement, tu as des choses que tu peux faire dans ton appartement, hein, isoler un mur, changer les convecteurs, etc. Mais il y a des choses qui ne sont tu n'as pas la main et c'est la copropriété. Donc c'est vrai que nous, on fait attention. L'objectif, c'est vraiment que l'investissement se passe bien. Donc si demain, moi, je vois un projet en disant aujourd'hui, c'est en F ou en G, on fait une très grosse négo, c'est super, mais vous inquiétez pas, on va le remonter en D avec les travaux. Il s'avère que les travaux, il y a un vote en AG, on n'a pas obtenu la majorité, etc. Donc on est quand même... Alors, c'est toujours pareil ce qu'on disait tout à l'heure, on est prudent sur ça, c'est pas de faire n'importe quoi, et c'est de bien conseiller nos investisseurs. Voilà, donc en tout cas, ce sujet des PE, on est prudent. Petit point d'actu, je ne sais pas si tu as suivi, mais là, ils ont annoncé hier ou avant-hier, c'était confirmé ce matin, qu'il va y avoir, ils vont faire un petit peu évoluer le DPE, notamment sur la question de la production d'eau chaude sanitaire. C'était ça, en fait, qui dégrade les petites surfaces, c'est moins de 40 mètres carrés. Donc, c'est surtout c'est beaucoup de nos investissements potentiels. Donc, ils vont mettre un coefficient de pondération. Bon, c'est un peu technique, mais ce qui devrait
assouplir.
C'est ce que dit le ministre. On verra, c'est encore à creuser. Mais ça ferait sortir des passoires thermiques en environ 140 000 logements. Donc, voilà. Donc, là, il y a quand même. Ça revient sur ce qu'on disait en tout début, c'est est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Tu vois, il y a quand même pas mal de signaux qui sont en train de recliquer, de repasser au vert. Le DPE en fait partie, malgré tout, parce que c'est quand même, ce sera plus aussi facile pour nous d'avoir plus d'invest avec des DPE plus facilement remontables. Mmh. Voilà. Enfin, remontables, on peut remonter la note.
Ouais. Bon, c'est rassurant aussi. Enfin, je trouve que ça envoie une bonne image, ça rassure un peu de se dire que les gens sont concernés. Se renseignent en tout cas et orientent un petit peu leurs investissements là-dessus. Donc
nous, ça je suis tout à fait d'accord. Nous aujourd'hui, en 4 ans, on n'a pas eu un investisseur qui nous a dit moi j'en ai rien à faire, moi ce que je veux c'est faire une super affaire, ce sera en F ou en G, je m'en fiche et puis on verra pour le locataire. Non, on a vraiment cette volonté quand même d'avoir un investissement sympa, bien placé, qui est bien rénové. En tout cas, nous, on pousse ça aussi. Hein. Et c'est aussi, durant la loi de finances, la dernière, on avait essayé un peu d'alerter à notre petit niveau certains élus qui voulaient remettre en cause de l'MNP en leur disant, mais donc le locatif meublé non professionnel, hein, le dispositif fiscal intéressant pour le meublé, on a dit, nous, on participe aussi à la rénovation du parc locatif. C'est du long terme, donc ça permet de loger beaucoup de des jeunes actifs, des étudiants. Donc oui, en tout cas, on a... De notre côté, comme de côté de nos investisseurs, il y a vraiment cette volonté d'avoir des investissements bien rénovés avec une bonne note énergétique.
Mmh. Ok, ouais. Intéressant. Et autre petite parenthèse aussi que je voulais ouvrir aussi avec toi, là, c'est sur la partie des JO.
Oui.
Ce qu'on sait que c'est aussi pas mal dans beaucoup de discussions parce que ça approche.
Oui.
Est-ce que toi, tu ressens un effet JO sur soit des gens où ça a créé un peu l'étincelle pour lancer un projet ou des villes qui sont en train de prendre aussi de la valeur parce que nouvelles infrastructures, nouveaux transports ou autre. Est-ce qu'il y a un effet JO sur l'immobilier, enfin un effet long terme grâce aux JO ?
Alors, nous, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas trop d'effet long terme sur les JO. Je pense, pour être sûr, qu'il y a un effet court terme. En effet, il va y avoir clairement un effet hein, pendant un mois. Il n'y a pas de doute où ça va très bien se louer. Nous, honnêtement, on n'a pas tellement d'effet JO sur notre activité, parce qu'encore une fois, nous, c'est du long terme. Donc, on n'a pas d'investisseur qui vient nous voir en disant, voilà, je veux juste un studio là, à Paris ou en première couronne pour faire un investissement. Et voilà. Donc, non, on n'a pas tellement cet effet-là, nous, de notre côté. Voilà.
Et des villes qui ont peut-être justement des infrastructures, des stades, des piscines qui se construisent pour accueillir peut-être les JO qui prennent de la valeur grâce à ça. Ça se remarque
Aujourd'hui, je ne le vois pas encore. Maintenant, tu vois, il faudrait voir d'ailleurs les villes en dehors de Paris, bien sûr, où il y a des... Je sais qu'il y en a à Nantes un petit peu, où les épreuves vont se dérouler. Donc là, voilà, de manière, voilà, j'ai pas tellement d'infos sur ça et je pense surtout qu'on n'a pas encore assez de recul sur cet effet JO. En tout cas, nous, nos investisseurs, on n'a pas de demande spécifique pour investir maintenant parce qu'il y a les JO.
Voilà. Ok.
Voilà.
Ok. Donc c'est plutôt, on a plutôt, parce qu'on en voit beaucoup de discussions, enfin on entend beaucoup de discussions, mais c'est plutôt soit des résidences principales où des gens veulent profiter d'Ijo pour le louer un mois et demi.
Oui, voilà. Mais bah, c'est très court-termiste.
De là à investir juste pour ça.
Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. En tout cas, nous, alors, c'est peut-être pas vrai partout, en tout cas pour WeCare, on n'a pas l'effet JO où ça va déclencher là, investir maintenant avant juillet pour les JO. On n'a pas eu ça.
Bon, de toute façon, le temps passe vite, hein, parce que s'il faut être prêt au JO, c'est qu'il faut trouver
c'est maintenant là. Ouais, c'est maintenant. Ouais. Donc, oui. Voilà. Et puis après, c'est de la courte durée. Donc, nous, on n'a quand même pas beaucoup de demandes sur la courte durée. On en a, hein. On peut en faire. On n'a pas de. Mais bon, on n'est pas une conciergerie. Voilà, on est plutôt, encore une fois, sur ces stratégies de long terme, avec une fiscalité qui, aujourd'hui, ne bouge pas. On verra demain. Alors que, quand même, la fiscalité Airbnb a quand même pas mal été remis en cause. C'est pas terminé, comme tu le sais, il y a eu des évolutions en loi de finances dernière. Il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion. Et je sais qu'il y a c'est dans la presse, hein, qu'il y a un rapport parlementaire qui est en cours de rédaction, qui devrait aussi donner des pistes pour réformer la fiscalité du logement, enfin des logements en général. Donc à voir, voilà ce que ça va donner.
Voilà. Et vous couvrez pas encore la ville de Lille ?
Non, on couvre pas encore la ville de Lille. Mais ouais, c'est une.
C'est surprenant ou c'est parce que.
Non, alors c'est une ville déjà une ville intéressante. On a quand même pas mal de concurrents sur place. Donc voilà, c'était aussi pour ça. On met plus de temps pour y aller. Mais en effet, je pense que Lille est une ville top. Oui, je pense que c'est une ville intéressante.
Top, ok. Ouais. Et dernière petite question, parce que je vois que le temps file vite. Oui. Question un peu traditionnelle qu'on pose, hein, dans ma tirelire, c'est de savoir un peu ce que tu as toi dans ta tirelire. Un peu savoir quelle est un peu ta stratégie. Est-ce que tu as beaucoup d'immobilier parce que c'est ton quotidien, ou est-ce que tu as d'autres choses un peu plus atypiques ?
Non, après moi c'est un peu stratégie bon père de famille. J'ai ma RP, résidence principale, et j'ai deux investissements. Voilà. En meublé, hein. Deux investissements locatifs.
À Nantes, du coup ?
Ouais, à Nantes. Les deux à Nantes. Et j'ai un peu d'assurance vie, mais voilà, c'est pas. Voilà. En tout cas, pour une de tes premières questions, je ne peux pas vivre de mes rentes. Voilà.
Pas encore. On ne peut pas devenir millionnaire avec WeCare en un mois.
Ah non, malheureusement.
Ah, je suis déçu.
Dommage.
Il faut vendre des formations à 59
euros. Ouais, exactement. On n'a pas encore fait ça.
Ça marche. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces réponses, parce que on sait que l'immobilier, c'est toujours le placement préféré des Français, et quand ça chahute un peu, tout le monde panique, et il y a de quoi paniquer un peu, hein, mais si on reprend les bases un peu de l'immobilier, est-ce que les métriques, c'est un peu ce qui est structurel dans l'immobilier, on se dit que c'est toujours le bon moment.
Ouais.
Mais peut-être qu'en ces temps un peu turbulents, il faut être aussi accompagné au niveau sourcing, au niveau financement, au niveau travaux. Quand à l'époque, on pouvait faire ça un peu tout seul, on faisait 2-3 erreurs, mais ça passait.
Oui, complètement. Alors, pour terminer, en effet, nous, on voit l'immobilier, clairement, je pense, reste un investissement qui plaît. Nous, on voit nos investisseurs, ils sont quand même jeunes. Hein. Enfin, c'est vraiment des jeunes actifs, entre 30 et 40 ans. Donc, tu vois, c'est pas des investisseurs qu'on a en 60. Donc, oui, c'est un investissement qui plaît. Et je pense qu'il faut. En tout cas, je pense que notre accompagnement qu'on propose, il est important et il est intéressant parce que c'est complexe. Les villes, on ne sait pas toujours, encore une fois, on a beaucoup d'investisseurs qui vivent dans les villes, qui vont investir dans leur ville, mais qui n'ont pas le temps, qui ne connaissent pas, encore une fois, chacun son métier. Donc oui, je pense que WeCare a son intérêt.
Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent creuser, hein, allez voir sur WeCare, hein, OUIKER, avec une petite résonance au Grand Ouest.
Exactement.
Et n'hésitez pas, si vous voulez creuser votre ville ou même aller explorer une autre ville, hein, parce qu'il y a des opportunités en fonction de vos stratégies un petit peu partout. Merci d'être venu jusqu'ici pour répondre.
Un grand merci à toi de ton invitation.
Bon retour à Nantes.
Ouais. Ah, merci. Je repars dans une heure.
Ouais, voilà. Tu loupes ton train, ça marche. Voilà. Allez, à bientôt.
Merci à toi, Alexandre.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre plus. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.